Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci, si vous nous rejoignez seulement, de nous retrouver à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain qui prend soin des autres et Bertrand Chamerois pour son écran de veille sur une compétition sportive improbable, le mot est faible. Notre invité est l'écrivain Michel Bussy, il est l'un des plus lus en France et il vient pour l'adaptation de son roman gravé dans le marbre en BD. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une nouvelle série britannique sur les grandes familles mafieuses de Londres avec Margot Barallon et puis Spider-Man de retour avec un nouveau visage, Clément Le Saffre va nous le faire découvrir. Clément qui nous avait déjà fait découvrir la PS5. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Bondel, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. De quoi vous nous parlez ce matin?
On est les champions! Non, ranger le champagne, c'est juste le titre de la série documentaire que j'ai regardée hier. On se calme. Une création Netflix consacrée aux concours les plus improbables. Danse canine, dégustation de piment ou encore coiffures incroyables.
Sympa.
Concours dont Mathieu Béliard est curieusement absent.
Et c'est... Bertrand.
Mais on a la même passion, voilà. Avec Mathieu.
Vous avez surtout le même coiffeur.
Et c'est cette compétition qui a retenu mon attention.
Froide.
Ouais, un peu.
Froide, les tiennes sont plus chaudes.
Non Eva, ce n'est pas du tout ce à quoi tu penses. Il n'existe pas de championnat de palpation testiculaire.
Oh non.
Quel esprit mal placé celle-ci. Non, écoutez de quel concours il s'agit.
Bien, on va pouvoir lancer le concours de saut de grenouille.
Le concours international officiel de saut de grenouille taureau. 92 ans d'ancienneté, je vous laisse deviner où ça se passe. Aux États-Unis, évidemment. Et les règles sont aussi pointues qu'un vieux couteau à beurre.
Chacun vient avec sa grenouille. Forcément une grenouille taureau américaine. Vous la posez sur une marque. Elle fait 3 sauts et on mesure la distance totale.
À la clé pour le vainqueur, $700. 5000 pour celui qui battra le record du monde. 6,55 m. Et là, je m'adresse à tous ceux qui vivent mal le reconfinement. Si vous avez la sensation de vous ennuyer sévère, sachez qu'il existe pire que vous.
Depuis maintenant 4 générations, nous attrapons, nous entraînons et nous faisons sauter ces grenouilles. Cette année, c'est notre 65e participation au concours de saut de grenouilles du comté de Calaveras.
Ouais, ça, c'est de l'ennui intersidéral. Vous imaginez 65 balais qui coachent des grenouilles pour qu'elles fassent 3 bonds et vous, vous chouinez parce que vous ne savez pas comment vous occuper au bout de 2 semaines. Non mais vraiment, quoi qu'il en soit, je ne pensais pas que le saut de grenouilles déchaînait à ce point les passions. Certains participants sont d'une redoutable ténacité.
John a toujours perdu en 37 années de participation. Il n'a peut-être jamais gagné un seul concours de saut de grenouilles. Mais dans sa tête, John n'est qu'à 3 sauts du record du monde.
Tout pareil pour nous, on lâchera rien, on est à 3 sauts du record. Je vois dans votre regard que vous vous demandez, mais il a réellement regardé ce docu sur les grenouilles jusqu'à la fin? Il est vraiment en train d'en faire 3 minutes? Évidemment que oui, c'est mal me connaître. Par conscience professionnelle déjà, mais aussi parce que Netflix a ce talent pour nous tenir en haleine avec des choses a priori peu exaltantes.
Au second saut, il franchit la barre incroyable des 2,74 m. Il ne lui manque plus qu'1,80 m pour entrer dans l'histoire.
Ouais, c'est juste un redneck qui fait sauter une grenouille taureau, mais j'avais l'impression d'assister au premier pas sur Mars. C'est ça le secret de ce docu, la bande originale. Ils habillent tout de musique western pour dramatiser et dynamiser. Mais c'est peut-être ça la solution, mettre de la musique de western sur les interventions de Jean Castex pour les dynamiser.
Cette première étape ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés.
Ouais, bon, autant ça marche sur les grenouilles, mais Castex, même avec du western, ça reste chiant comme la pluie un jeudi de novembre. Voilà, donc si vous aimez les concours improbables, We Are The Champions est dispo sur Netflix. Seul bémol, ils font l'impasse sur la compète qui cartonne en ce moment, celle de la phrase la plus crétine prononcée dans les médias. C'est dommage, hein, parce que ça joue beaucoup, hein, on frôle la pénurie de médailles.
Merci beaucoup Bertrand Chamerois. Eva,
oui.
Les brèmes du soir, le thème de votre zapping du lendemain.
Alors, on va parler des soins. Prendre soin de son corps, des autres, des animaux aussi. Alors, on ne dit pas passer du coq à l'âne, mais de la grenouille à l'éléphant, en l'occurrence aujourd'hui. On a même le bruitage. Je vais vous parler de Lek. Elle a 59 ans, elle vit en Thaïlande et depuis 30 ans, elle sauve des animaux. Elle a créé un immense sanctuaire où vivent des dizaines de pachydermes qui ont trop longtemps été maltraités par les hommes, utilisés pour promener les touristes ou amuser les spectateurs dans les cirques. Alors attention, l'extrait qui suit est extrêmement difficile.
Le brisage ou l'entraînement par anéantissement. C'est la méthode utilisée pour transformer les éléphants en bêtes de foire ou en animaux dociles pour touristes. Elle consiste à arracher l'éléphanteau à sa mère et à le torturer pour le rendre obéissant. Parfois, les coups sont si violents que l'animal se vide de son sang. En Thaïlande, Un éléphanteau meurt chaque mois à la suite de ses sévices.
C'est horrible.
C'est horrible. Alors, ce reportage est à voir dans Envoyé spécial ce soir. Mais vous allez constater qu'il y a des motifs de se réjouir, car les solutions existent, et c'est tout l'intérêt de ce reportage. Des solutions existent pour à la fois contenter les touristes, mais aussi prendre soin des animaux avec des sanctuaires, en l'occurrence comme celui de Lec. Sur France 5, c'est un médecin qui a décidé de prendre soin de vous, de nous. Il s'appelle Jean-Benoît Harlet. C'est le docteur House français. Son métier, écoutez bien, moi je ne connaissais absolument pas, il est interniste. C'est-à-dire qu'il va enquêter quand plus aucun docteur ne parvient à comprendre votre mal. Tout part du constat que chaque organe est en interaction avec les autres. Documentaire scientifique passionnant, au cours duquel vous allez apprendre des choses stupéfiantes, à commencer par les dons extraordinaires de nos reins. Et pas seulement, écoutez ce petit montage de quelques-unes des infos à découvrir.
Ils ont le pouvoir de nous doper quotidiennement en sécrétant une hormone, l'EPO, dont le nom a un parfum de scandale. On associe l'EPO au dopage sportif. Pourtant, c'est une substance que nos reins produisent naturellement.
Vous et moi fabriquons de l'os chaque jour. Nous renouvelons nos os quotidiennement. En fait, tous les 5 ans, hommes ou femmes, nous remplaçons l'ensemble de notre squelette. L'os est un tissu très dynamique.
Mis bout à bout, nos artères, veines et vaisseaux feraient 2,5 fois la circonférence de la Terre.
C'est incroyable.
D'une seule personne, on est bien d'accord, d'une seule personne. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au-delà de ces infos, les images sont incroyables. Ce sont des images de l'intérieur de notre corps. Je n'avais jamais vu ça. C'en est presque beau. C'est surtout très instructif. Pour ceux comme moi qui s'étaient arrêtés au dessin animé était une fois la vie, vous allez monter d'une classe. C'est parfois un peu trop dense, je préfère vous prévenir, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis je vous propose de finir avec des soins encore, grâce à un médecin, dans une fiction britannique savoureuse, A Young Doctor's Notebook, le carnet de notes d'un jeune médecin. Nous sommes en 1917, on est dans un trou perdu de Russie. Vladimir Nika vient d'être muté dans un hôpital totalement isolé du monde. C'est un tout jeune médecin, c'est son premier poste. Autour de lui, une assistante, une sage-femme et un barbier chirurgien. Je ne sais pas si ça existe réellement, je ne crois pas.
Autrefois, ça commençait comme ça. Ils étaient barbiers et chirurgiens.
Voilà. Alors, son premier poste, voilà, il pense tout savoir, ce jeune homme. Il va se retrouver confronté à la réalité et ça va un peu le faire vaciller. Il vient d'ailleurs de réaliser une amputation sur une jeune enfant. Un carnage. Il faut dire que la scie n'était pas aiguisée. Compte rendu. Je sais, c'est... Voilà, vous allez comprendre. Compte rendu dans son carnet.
Je ne suis pas médecin, je suis boucher. Je fournis des morceaux de premier choix et la meilleure chair à saucisse. Quand je pense que j'ai lu tous les manuels médicaux de la bibliothèque impériale de Moscou. Et pourquoi ? Quand le seul livre dont j'ai besoin, c'est trucs pratiques pour désosser une carcasse. Utiliser une scie affûtée autant que possible. Changer de bras en cas de fatigue. Peut-être que je pourrais enseigner dans les abattoirs.
Bertrand Chameroy, on a eu la même réaction, un magnifique doublage.
Ah oui, très beau doublage.
Quelle voix.
Mais on remercie Antoine Janton qui a assuré ce doublage.
Antoine Janton, notre
rédacteur chef. Qui a assuré le doublage, excusez-moi, de Daniel Radcliffe, qui incarne Vladimir Harry Potter quand
il
même.
Il le fait mieux que lui, je trouve.
Voilà, alors ce Vladimir en question, il est incarné donc par Daniel Radcliffe et par votre héros Bertrand, John Hamm, le héros de Mad Men.
Ah oui, j'adore.
La série met en effet en scène le médecin en 1917 et en 1934, d'où l'idée d'avoir deux acteurs, avec une petite folie supplémentaire. Il y a une sorte de twist temporel, c'est-à-dire que le Vladimir de 1934 rend visite régulièrement à celui de 1917, donc vous avez les deux acteurs à l'écran. Humour noir garanti, un regard satirique sur l'exercice de la médecine, c'est vraiment très réussi. Donc je récapitule, soigner les enfants, c'est l'enquête choc dans Envoyé spécial sur France 2. Soigner les éléphants, pardon, c'est dans Envoyé spécial sur France 2 à 21h05. Soigner son corps, c'est dans le documentaire Notre corps, ce réseau social, sur France 5 à 20h50. Et soigner approximativement, c'est la série Young Doctors Notebook sur arte.tv.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Et comme ils disent dans votre doc sur Netflix, nous attrapons, nous élevons et nous faisons sauter ces grenouilles.
Et
dans
vous
un instant.
Pas mal en doublage,
ça. Ah, mais ça m'a toujours frappé, les voix des doublages comme ça. Pourquoi ils parlent comme ça dans des doublages alors que personne ne parle jamais comme ça dans la vraie vie? Dans un instant, on
ça
sera
va
avec
mieux,
notre invité,
prenez vos pilules,
Michel Bussy.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Faut-il vous présenter, Michel Bussy? Vous êtes romancier, le deuxième auteur français le plus lu en France, après Guillaume Musso. Vous êtes passé devant Marc Lévy. Vos romans sont traduits dans 35 langues. Je vais citer N'oubliez jamais, Maman a tort, qui est devenu un film sur la 2, Un avion sans ailes, qui est devenu une série sur la 6, ou Le temps est assassin, qui est devenu une série sur la 1. On vous a reçu en février pour votre dernier roman, Au soleil redouté. Ah oui, et j'ai oublié de citer Gravé dans le sable, qui devient une BD chez Phileas. Je l'ai ici, Gravé dans le sable. C'est signé, c'est d'après Michel Bussy. Debussy, c'est signé Derache et Fernandez. On va d'abord raconter l'histoire avant de savoir comment vous avez travaillé. L'histoire qui se résume en une question: quel est le prix d'une vie? Vous donnez le prix de cette vie, 1,44 million de dollars. C'est quoi cette histoire? Comment on arrive à ce chiffre? Que s'est-il passé?
Alors, il faut que je vous raconte le pitch, je ne l'ai plus. Alors,
évidemment, évidemment. Et vous le ferez mieux que moi.
Alors, en fait, ça, l'histoire commence la veille du débarquement en Normandie. Ouais. Et les Rangers, un commandant Rangers, doit aller prendre d'assaut une pointe, alors qui est la pointe du Hoc en réalité, dans la vraie histoire. Moi, je l'appelle la pointe Guillaume. Ouais. Et avant de s'élancer sur cette plage, évidemment, la mitraille allemande, les gradés décident d'opérer un tirage au sort pour savoir qui, le premier, ira porter un explosif pour faire sauter un mur qui permet d'accéder à la pointe. Et donc les Rangers tirent au sort, et un Rangers dont la maman possède beaucoup d'argent va tirer le numéro 4, un autre, Lucky, qui vient le héros, va tirer le numéro 144, et puis secrètement ils décident d'échanger leur numéro pour 1,4 million de dollars, c'est-à-dire 1 000 dollars par chiffre d'accès. Ouais. Et donc l'histoire s'arrête là pour le début. Simplement, 20 ans après, la veuve de Lucky, qui a procédé à ce contrat, à cet échange, n'a rien touché et va apprendre cette information, ce secret de guerre, par des vétérans lors d'un retour en Normandie, et va chercher à non seulement à percer ce secret, mais aussi à faire payer la mère de ce soldat, et évidemment à faire percer la vérité.
Alors, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'époques, beaucoup de lieux, beaucoup de retournements. C'est très, très complexe. On parlera après de la construction. Parce que comment on résume en roman de 400, 500 pages, en 124 pages, même si c'est beaucoup pour une BD, il y a un détective privé. Je veux dire, ce qui m'a frappé, on est page 110. Et page 110, vous mettez la date, parce que ça se déroule sur plusieurs années, même plusieurs décennies. Et on est le 19 novembre 75, et hasard de choses, on est le 19 novembre, là pour nous, en vrai. Donc c'est à 45 ans. Et je lis. Voilà ce que dit ce détective privé qui est en voiture. Il dit, et voilà, on rentre à Washington. C'est une histoire qui aurait pu faire une bonne fiction. Le problème, c'est qu'il faudrait une fin. La tête du lecteur, si on le laissait là, désolé mon pote, on n'a pas trouvé. Alors si tu trouves la solution, écris-nous, on fera un tome 2. Donc vous faites du métalangage, il y a un livre dans le livre. Évidemment, vous avez trouvé une solution, je ne vais pas la raconter. Est-ce qu'il y aura un deuxième tome?
Non, il n'y aura pas un deuxième tome, parce que mes personnages, je les prends quand ils ont 18 ans, 20 ans, c'est-à-dire qu'ils découvrent, évidemment des gamins, quand à la fois les Rangers américains qui se jettent sur les plages de Normandie, à la fois leurs femmes, leurs veuves qui sont là et qui ont le même âge, et puis mes personnages, je vais les amener jusqu'à ce qu'ils vieillissent, hein, même jusqu'à ce qu'ils meurent, donc je vais raconter tout leur destin, et évidemment quand ils ont 20 ans, mais aussi 20 ans plus tard, quand ils ont 40 ans et qu'ils repensent à cette guerre. Donc ce qui m'intéressait dans ce roman, et donc évidemment dans la BD, c'est comment le destin de ces gens va se jouer en une journée, en une matinée, ce matin du débarquement. Et toute leur vie, ça va les poursuivre. Tout s'est joué à un moment donné. Et c'est sans doute la vérité. C'est vrai que les gens qui habitaient sur ces plages de Normandie, tout comme les soldats qui ont débarqué, leur vie pratiquement a
évidemment
été intégralement marqué par cet événement, forcément.
Évidemment. D'un mot, BD ambitieuse, 120 pages. Vous n'êtes pas le scénariste, c'est écrit d'après Michel Bussy. Comment vous avez travaillé ?
Alors moi, je suis assez, j'espère en tout cas être assez cool avec les scénaristes, c'est-à-dire que je leur laisse complètement faire le travail librement. Bon, il se trouve que pour une BD, c'est beaucoup plus simple, par exemple, que pour une série télé, et donc on peut assez facilement dialoguer avec le scénariste qui m'envoie ce qu'on appelle les rushs ou le développement, c'est-à-dire qu'il m'envoie l'ensemble des dialogues, des scènes, et moi je valide. Mais en fait, je suis pratiquement toujours validé parce qu'à la fois c'était très très bien fait, et puis je retrouve mes propres phrases, puisque dans une BD on peut on fait beaucoup de coupes, mais heureusement on garde quand même une partie des dialogues, on garde une partie des phrases, et généralement ce qui est amusant, c'est que les phrases qui me plaisent le plus dans mon roman, souvent c'est celles que garde le scénariste, donc il y a au final quand même une logique.
Des phrases qui nous plaisent et qu'on est très heureux de retrouver, c'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino. Elle revient, vous restez avec nous évidemment. Michel Bussy, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Bussy, le romancier qui sort Gravé dans le sable. C'est un roman, c'est désormais une bande dessinée d'après lui, et c'est signé Derache et Fernandez. Michel Bussy, vous êtes à distance. Je ne vous présente pas, mais vous l'entendez. On est très heureux de la retrouver. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Je suis aussi très heureuse de vous retrouver. Voilà, c'est dit. Bonjour Michel Bussy. Je suis là pour dévoiler Bonjour. Presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Bubu Turbo ou encore Michou, vous êtes un grand, grand joueur.
Michou, il faut le porter. Hein.
Et depuis toujours, commençons par ça. Vous avez reconnu le tennis de table.
Oui, j'ai reconnu. Du ping-pong.
Exactement. Vous y jouez depuis l'âge de 10 ans. Vous avez été vice-champion de l'Eure en 1988. Et vous continuez d'ailleurs, joueur avec un petit humour quand même. Comme il n'y a pas très longtemps, quand vous avez pris du gel hydroalcoolique dans vos mains, un joueur de tennis, de ping-pong entré dans le gymnase et vous lui en avez mis sur la tête pour qu'il se nettoie le front. Voilà. Ça, c'est l'humour Michel Buss.
Je n'ai quand même pas fait ça.
Si.
Si, vous l'avez fait.
Pour l'assumer. Le sport.
C'est de la pure diffamation.
Le sport, c'est depuis toujours les rencontres sportives au collège, une sorte d'interville, le vélo et la traversée de la plaine pour aller jouer chez vos copains. Mais surtout, les jeux à l'âge de 13 ans, vous avez créé un jeu de société avec des cartes de sportifs. Ça s'appelait Bussimon, Bussi plus votre copain Simon.
Ouais.
Et oui.
Ouais, bah, c'est pas où vous avez trouvé tout ça, mais c'est quand même incroyable.
Et vous continuez une fois par mois, vous réunissez avec des amis pour jouer aux jeux de société tous les ans. Il y a même un championnat. Alors vous êtes bon joueur, oui, parce que vous gagnez tout le temps, évidemment, mais pas forcément.
Attendez, mais Michel Bussi, vous avez organisé un jeu de Bussimon tous les ans maintenant ?
Mais non, c'est un jeu à l'époque.
Non, non, c'était un jeu, jeu assez ancien, mais on l'a jamais édité celui-ci.
Vous avez également le sens de l'amitié.
L'amitié, c'est pour moi un paysage.
Le bon copain qui faisait les rédactions de ses amis au collège pour qu'ils aient des bonnes notes. Le bon copain qui modifie les textes des chansons pour les mariages, anniversaires, qui organise des chasses au trésor pour les enfants, mais surtout pour les adultes. Michel Bussi, des amis aussi prêts pour vous aider, comme ce jour où vous avez eu votre première voiture, une 4L. Vous souhaitez qu'un de vos amis vous mette l'autoradio correctement. Bon, sûrement pour écouter la chanteuse dont vous étiez amoureuse.
Moi aussi, j'étais un homme, je serai capitaine.
Diane Tell, vous étiez un petit peu amoureux de Diane Tell. Eh oui. Bref, vous descendez dans le garage pour mettre cette autoradio et vous avez voulu, Michel Bussi, desserrer le frein à main pour que l'autoradio passe. Donc la voiture est partie. Elle a tapé partout dans le garage, la voiture des parents de votre ami. Et dans tout ça, l'autoradio était intacte.
C'est dingue parce qu'il y a une histoire de frein à main lâché, dent gravé dans le sable, dans ce roman.
Il y a toujours des petits clins d'œil, vous
Incroyable.
Allez voir.
C'est exactement
dingue.
Présent pour vous. Présent pour vos amis, généreux, bienveillant, voilà comment on peut vous définir. Mais surtout, l'amitié prend tout son sens quand il s'agit de Paramos, l'association dans laquelle vous êtes et où vous vous transformez en clown.
J'ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux.
Avec votre ami, entre autres, Pascal Lozé, une troupe de magiciens qui tourne depuis plus de 20 ans. Vous êtes le clown toboggan qu'on retrouve dans un de vos livres aussi. Michel Bussi, vous y êtes souvent, mais c'est aussi la générosité de quatre amis. Vous aimez vous charrier aussi un petit peu avant. Parfois, votre homme d'enfant qui continue aujourd'hui de mordiller ses crayons tout le temps ou de manger des bonbons Haribo, oui. Finalement, il est préférable de fixer aucune règle comme vous faites, ce qui vous a permis de rester vous-même.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Michou, une petite réaction ?
Incroyable, incroyable. C'est quand même, c'est tout ce que j'ai essayé de cacher depuis des années, voilà, et dévoyer au grand jour. Notamment mon passé de clown, enfin mon passé ou même mon présent de clown, voilà, qui est quand même quelque chose que dont pratiquement personne n'est au courant.
Trop tard, on a récupéré Hélène Manarino, on en est ravis,
voilà.
Et Michel Bussi, vous êtes grillé. Dans un instant, notre premier indispensable avec Margot Barallon, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Michel Bussi, deuxième auteur français le plus lu en France, roman traduit en 35 langues. Et puis, certains de vos romans, Michel Bussi, sont devenus des séries, comme Un avion sans aile, qui est devenu une série sur M6, ou Le temps est assassin, qui est devenu une série sur TF1. Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a d'autres séries en préparation ?
Alors oui, on est en train de préparer une série, mais qui sera un inédit, c'est-à-dire c'est pas tiré d'un de mes romans, ça sera une série complètement inventée que je suis en train de co-scénariser.
Et ça parle de
pour
quoi ?
France Télévisions.
On peut savoir ?
Ben non, je crois que là c'est encore top secret parce que j'ai ni l'accord de la télévision ni des gens avec qui je travaille. Donc je sais qu'on a un titre qui a été dévoilé, c'est L'île prisonnière.
D'accord. Mais vous savez déjà que c'est sur France Télé, mais vous n'avez pas encore l'accord de France Télé.
Ah, je ne sais pas s'ils l'aient, mais en tout cas, je n'aurais pas demandé si je pouvais en parler, en tout cas. Voilà. Je sais qu'ils ont dévoilé dans les médias l'île prisonnière, le titre, mais pas forcément de quoi ça parlait.
Voilà ce qui se passe quand on est le deuxième auteur français le plus lu. On est tellement convoité qu'on peut un peu tout dire. Vous êtes fan de série à la base, Michel Bussy ?
Pas trop, en fait. Pas trop. Je suis un peu resté à Starsky et Hutch et Chapeau melon bottes de cuir, pour tout vous dire. Donc, c'est pas tout à fait récent.
Ah oui. Margot Barallon, bonjour.
Bonjour.
Sans le vouloir, vous avez fait sourire Margot Barallon, même rire sous son masque.
Tout à fait.
C'est hyper moderne, Starsky et Hutch.
Starsky et Hutch, c'est moderne, oui.
Ouais. Margot, ce matin, vous nous parlez d'une série britannique qui a fait un carton au Royaume-Uni et qui vient tout juste d'arriver en France.
Oui, le premier épisode est sorti dimanche sur la plateforme Starsplay et la série s'appelle Gangs of London, donc comme son titre l'indique, nous allons nous retrouver dans les ruelles de Londres, au milieu de gangsters. Alors plus précisément, les personnages de la série appartiennent à de grandes familles mafieuses qui se partagent un peu tous les trafics possibles et imaginables de la capitale anglaise, donc drogue, blanchiment d'argent, etc. Sauf qu'au début de l'histoire, l'un des hommes les plus puissants de ce petit monde, Finn Wallace, se fait assassiner. Alors c'est un destin plutôt classique pour un gangster, mais qui remet tout en cause parce que son fils Sean est bien décidé à trouver le coupable coûte que coûte.
Nous tenions tous à vous remercier pour votre présence. Aujourd'hui, nous pleurons la mort d'un grand homme. Mais demain, les affaires reprendront à la normale.
Non, on ne reprend rien.
Sean.
Rien ne sera importé et rien ne sera exporté. Aucun blanchiment d'argent. Personne ne vendra ne serait-ce qu'un gramme dans la rue. On ne reprendra pas tant que je ne saurai pas qui l'a tué.
Alors inutile de dire que cette décision de stopper tous les trafics ne plaît pas à tout le monde. Vous devinez la suite, des alliances, des trahisons, des meurtres à tous les coins de rue. Bref, nous sommes bien dans une série de mafia.
C'est contemporain, on entend du hip-hop, c'est contemporain,
oui,
ça
oui,
se passe de nos jours.
Ça se passe de nos jours.
Série sur la mafia qui a eu donc un succès phénoménal.
Oui, et ça tient en partie au fait qu'elle est précédée d'une sacrée réputation puisqu'elle serait la série la plus violente jamais réalisée.
Non.
Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que je pense que je manque un peu de benchmark complet, mais c'est effectivement très violent. Pour vous donner une idée, le premier épisode s'ouvre sur un homme pendu par les pieds en haut d'un immeuble et brûlé vif. Et ensuite, bon, je ne compte pas, les mâchoires explosées, les yeux crevés, la cervelle qui ruisselle sur les murs. Il se peut qu'étant un peu sensible moi-même, j'ai dû me cacher sous ma couette par instant, j'avoue.
Bon, disons même sans être sensible, franchement, les yeux crevés, la cervelle qui ruisselle. Alors qu'est-ce qui vous a plu une fois caché sous votre couette dans cette série?
C'est que les moments où j'ai pu regarder tout de même, j'ai vraiment apprécié la réalisation de ces explosions de violence. Alors très souvent, les scènes d'action et de combat notamment, c'est assez moche et on ne comprend rien à ce qui se passe. Pour que ce soit lisible, il faut vraiment chorégraphier ces scènes et dans Gangs of London, c'est le cas et c'est très bien fait. Donc on a des scènes d'action qui sont à la fois précises, inventives et puis il y a une identité visuelle très forte dans cette série. On voit d'ailleurs que le réalisateur et le chef opérateur se sont beaucoup inspirés des jeux vidéo. Ils ont plongé Londres dans une atmosphère très grise. Ça finit par ressembler un peu à Gotham City, la ville de Batman.
Et du point de vue scénario ?
Alors la série réinvente pas vraiment le genre, en revanche elle en exploite vraiment bien tous les codes. Parce que les histoires de mafia, ce sont avant tout des histoires de famille. Famille rassurante, protectrice, étouffante aussi parfois. Le jeune Sean Wallace par exemple, qui est obligé de prendre la suite à la mort de son père. Bon, c'est un sociopathe fini, mais on comprend qu'il a été conditionné depuis tout petit à le devenir avec son frère, alors que certains, à l'inverse, comme la sœur de Sean, tentent plutôt d'échapper à leur propre famille.
Tu sais que tu n'es pas obligée d'être seule, Jacqueline. Je voudrais t'aider.
Je ne suis pas toute seule. J'ai des amis et du soutien. Mon enfant a peut-être une chance de ne pas finir dépendant à l'héroïne ou à la violence.
Pardonnez-moi. Ton père leur a appris comment survivre dans cette vie.
C'était un choix. Franchement, est-ce que c'est cette vie-là que tu voulais pour tes fils?
On n'y peut rien. On est comme ça.
Non. Pas moi.
Si, toi aussi.
Alors ça, c'est bien joué de la part de la série de montrer cet atavisme de la violence, cette impossibilité d'en sortir. D'abord parce que ça donne une dimension tragique, shakespearienne à l'histoire. Et puis ça empêche la série de sombrer dans une esthétisation trop poussée de la violence qui aurait quand même été malvenue.
Gangs of London, diffusé sur Starsplay. Ça se trouve où, Starsplay, c'est quoi ?
Alors Starsplay, c'est une petite plateforme qui est donc accessible depuis celle d'Amazon Prime Video.
Donc il faut déjà être sur Amazon Prime et ensuite aller sur Starsplay.
Exactement.
C'est comme ça. Michel Bussy, Gangs of London, ça vous tente? Ça va dépoussiérer un peu Chapeau melon?
Ouais, je suis pas trop fan des films de mafia, de parrain, etc. Je trouve que ça manque souvent d'un scénario original. Donc c'est vrai que je suis rarement fan. Par contre, j'ai beaucoup aimé, par exemple, parce que voilà, La Casa de Papel ou des histoires de bandits, mais avec vraiment des rebondissements et une espèce de fantaisie dans le scénario, quoi. Je suis plus ludique que ces tueurs comme ça.
D'accord. Dans un instant, je transmets à Margot Barallon qui nous écoute. Elle-même disait que si ça pêchait un petit peu, c'était le scénario. Donc voilà, vous êtes raccord.
Ouais, voilà.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Bussy, Gravé dans le sable. Et puis il y a un autre livre pour les ados. On dit plus les ados, on dit les young adults, de Michel Bussy qui va sortir. On en parle dans quelques instants. Tout d'abord, je salue Clément Le Sarf qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On parlait tout à l'heure, vous êtes entré dans ce studio avec une info incroyable, de première bourre, comme il disait dans les feuilletons à l'ancienne. Tout à l'heure, Christophe Lamarre nous disait que la PS5 dont vous aviez parlé ici dans cette émission que vous avez présentée en avant-première était en rupture de stock et il y a plus fort encore.
Oui, parce qu'en fait, tout le monde la veut. C'est aussi simple que ça et ça se traduit sur le fait que tous les sites aujourd'hui, alors tous, pas tous, mais une bonne partie des sites de e-commerce en France sont complètement HS. C'est-à-dire que si vous allez sur Auchan, message d'erreur, sur la Fnac, vous avez message d'erreur, sur boulanger.1.fr, message d'erreur, partout pareil, parce qu'en fait tout le monde se connecte pour essayer d'attraper une PS5.
Oui, mais pourtant c'est des sites qui sont dimensionnés, c'est des gros sites. Hein.
Alors les sites sont dimensionnés, mais il faut se rendre compte qu'il y a 6 millions de personnes en France qui ont une PS4 aujourd'hui. Il suffit qu'il y en ait 1 sur 5 qui veulent une PS5, ça fait quand même 1 million de personnes qui essaient de se connecter sur ces sites au même moment. C'est-à-dire que c'est tout le monde à 10h, forcément là les sites ils ont tous planté.
Et alors justement Clément, votre jeu du jour sort sur PS5.
Oui, alors je vais quand même rassurer ceux qui n'ont pas de PS5, ouais, puisqu'ils sont nombreux, il sort aussi sur PS4, donc si vous avez une PS4, vous pouvez y jouer. Ce jeu, c'est Spider-Man Miles Morales, il est donc sorti il y a quelques jours, c'est la suite du génial jeu Spider-Man qui était sorti en 2018. Si vous l'avez raté, vraiment, rattrapez-le. On incarnait Peter Parker, qui est le tisseur historique de Marvel. Cette fois, comme le titre l'indique, on incarne plutôt Miles Morales, un adolescent qui a lui aussi été mordu par une araignée radioactive, c'est la même histoire. Et quand le Spider-Man original part en vacances en Europe, eh bien c'est Miles Morales qui va devoir protéger New York.
Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo.
Tu dois prêter serment.
Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville.
Je promets.
Tu penses pouvoir recruter une fureur, Erickson, mais tu peux pas.
À chaque fois que j'ai l'impression d'être vraiment Spider-Man, je fais tout foirer.
Miles, notre famille n'abandonne pas.
Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon.
Alors, côté scénario, c'est du classique. Hein. Un héros, des méchants, quelques retournements de situation, le tout saupoudré d'humour. Bref, c'est du Marvel dans le texte. Mais peu importe, en fait, ce jeu est peut-être le plus cool auquel moi j'ai joué. Hein. Simplement parce qu'on est Spider-Man. Et c'est absolument jouissif quand même de se balancer de toile en toile entre les gratte-ciels de New York en quête de criminels à arrêter. En plus, les combats sont hyper dynamiques, on en redemande. Et les graphismes en plus, voilà, c'est des tout derniers jeux qui viennent sortir. Donc, c'est à tomber par terre. Ça se passe à Noël. Donc, on traverse New York Central Park sous la neige. Bref, ce Spider-Man Miles Morales, c'est un vrai coup.
Je vous interromps, sinon vous êtes là encore pendant une heure, mais on sent que vous êtes éclaté. Mais quand même, pardonnez-moi Clément, vous êtes arrivé en disant il y a un deuxième Spider-Man.
Oui, ça tout le monde ne le sait pas encore, hein, mais il commence à se faire un nom, ce deuxième Spider-Man. Miles Morales, il a été créé en 2011 dans ce comics que j'ai ramené avec moi. Hop, tac. Hop, il s'appelle comme ça Ultimate Spider-Man. Il est écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Sarah Piccelli. C'était en 2011 et en fait, tous les deux, ils ont pris le risque de moderniser un héros qui était quand même très apprécié, un Spider-Man, avec un nouveau costume. Hop, on le voit, noir et rouge. Des pouvoirs en plus, il peut se rendre invisible. Il a aussi des attaques électriques.
Et on le voit sur Europe1.fr si vous avez le plaisir de nous voir à la caméra.
Absolument. Et en fait, c'est surtout Spider-Man, c'est une chose, mais c'est surtout Miles Morales qui nous intéresse, nous, puisqu'il est moitié latino, moitié afro-américain. Il représentatif de cette Amérique métissée longtemps, trop longtemps, ignorée par les comics. C'est un héros simple, pas torturé par un drame familial. Ses deux parents sont encore en vie, il a pas de problème ce garçon, il a des potes, il galère avec les filles à l'école, bref, il est comme nous, il cherche sa place dans le monde. Et puis, il passe son temps à écouter de la musique, il a le casque vissé sur les oreilles, ce qui donne l'occasion, dans le jeu comme dans les films, d'entendre quelques très bons morceaux de rap.
Alors Spider-Man, c'est l'un des super-héros les plus connus. Est-ce que ce nouveau visage a été bien reçu ?
Au début, il faut être honnête, les fans ils ont quand même eu du mal à l'accepter. Il n'y a pas plus conservateur, je pense, qu'un fan de super-héros. Beaucoup pensaient que Miles Morales ne ferait pas long feu, mais au fur et à mesure, les scénaristes ont donné de l'épaisseur à ce personnage et il a tissé sa toile dans leur cœur. Hein. C'est beau ce que je dis, non, quand même.
C'est tellement, c'est tellement bien.
Et 10 ans après sa création, eh bien, ce Spider-Man, il est encore là. Et il a même, rendez-vous compte, un Oscar. C'est pas mal déjà, un Oscar du meilleur film d'animation remporté l'an dernier pour Spider-Man New Generation. Une récompense pas volée, hein, clairement. Non seulement c'est un film visuellement ébouriffant, mais en plus c'est bien écrit. Ça permet à tout le monde de découvrir ce deuxième Spider-Man. Donc mon conseil, vous regardez le film Spider-Man New Generation, puis vous jouez au jeu Spider-Man Miles Morales. Je vous garantis que vous allez aimer votre confinement.
Michel Bussy, je ne vous demande pas si vous êtes fan de jeux vidéo, je vous demande si vous avez fait vos cadeaux de Noël déjà.
Eh bien non, pas encore. J'ai ma liste.
Et est-ce que les jeux vidéo, ça fait partie de votre hôte de Noël?
Eh bien, non, mes enfants sont grands et ma fille qui a 12 ans, elle joue pas trop aux jeux vidéo, elle joue aux Sims en fait.
C'est quand même un jeu vidéo, les Sims.
Voilà. Vous restez avec nous, Michel Bussy. On va justement parler des ados dans Culture Média. Merci beaucoup, Clément Le Saffre. Merci beaucoup, Margot Barallon. Vous restez avec nous si vous voulez. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
En compagnie de Michel Bussy, Gravé dans le sable, c'est une BD d'après votre roman qui vient de sortir. C'est chez Phileas, c'est signé Dora chez Fernandez. Et puis il y a aussi un autre livre qui sort, ça s'appelle Neo, N-E-O, avec des points entre les deux, La chute du soleil de fer, aux éditions PKJ. Sur le dossier de presse, ils disent que c'est votre première incursion dans le monde des livres pour young adults. C'est quoi les young adults? C'est les ados ou c'est une différence?
On va dire young adult, c'est plus dans la tête, donc on va dire c'est tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant et qui adorent regarder des sagas de Star Wars, Harry Potter, en passant par Hunger Games ou Tolkien. Ouais. Et donc on peut avoir 99 ans comme 10 ans.
Alors puisque vous dites que c'est dans la tête, est-ce que vous-même vous êtes un young adulte?
Ouais, je pense. La preuve, c'est que je passe beaucoup de temps à écrire une saga pour ados. Ouais. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'adore regarder. Ce sont effectivement toutes, et lire d'ailleurs, hein, c'est effectivement ces sagas dont on dit qu'elles sont pour ados. Ouais.
Alors, c'est le premier tome, c'est ça? C'est de la vraie grosse saga. Il y a combien de pages? Elles sont pas numérotées, tiens, les pages. Mais ça sent le 400-450 pages, ça. Hein.
Ouais, on est à peu près à 400 pages, mais enfin, c'est à la fois écrit gros et puis ça se dévore très vite. En tout cas, c'est le principe des mondes imaginaires, puisque là, j'invente un monde imaginaire et forcément, ce sont des gros volumes si on veut rentrer dans ce monde-là. D'ailleurs, la science-fiction, souvent, ce sont des gros volumes.
Ce monde imaginaire, cette uchronie ou cette utopie, c'est un monde où les adultes ont disparu.
Oui, c'est ça. On est dans un Paris un tout petit peu futuriste, enfin qui ressemble quand même au nôtre, ou en particulier celui pendant le virus, puisque les adultes ont disparu et donc le monde est aux mains des enfants. Et en particulier, au moment où mon récit commence, les enfants qui ont 12 ans et deux clans qui se partagent Paris.
D'accord. Et ils vont grandir ou pas? Ou est-ce qu'ils vont rester à l'âge de 12 ans comme Tintin qui ne grandit jamais, ni Milou qui ne grandit jamais?
Non, ils vont vieillir et donc...
Parce que s'il y a 4 tomes et qu'ils ont 12 ans, on imagine qu'ils prennent un an chaque année. Un an à chaque tome, c'est ça?
Eh bien non, 2 ans à chaque tome. Donc ils auront 12, 14, 16 et 18. Donc ils finiront adultes.
Et donc ils finiront par faire des enfants à nouveau. J'essaie de spoiler la fin.
Ça va être le suspense. Évidemment, comme ils ont la responsabilité du monde à reconstruire, forcément, il y a beaucoup de questions qui vont se poser, et y compris, évidemment, celui des générations futures.
Voilà, c'est à partir de 12 ans.
Mais ça ne sera pas pour tout de suite, pas pour le premier tome. À 12 ans, ils ne se posent pas encore toutes ces questions.
D'accord. PKJ, c'est Pocket Jeunesse, en fait. C'est une manière de le dire. Vous en êtes à quel niveau? Vous avez déjà écrit le 2, le 3, le 4. Vous savez où vous allez. Il y a des romanciers qui font des plans globaux et d'autres qui découvrent parfois même leur histoire au fil de leur plume. Vous faites partie de quelle catégorie, Michel Bussy?
Non, moi je sais très précisément où je vais et donc comment se terminera le tome 4. Là, le tome 2 devrait sortir en juin, il est déjà écrit. Et là, je suis vraiment en plein dans le tome 3, donc je m'amuse comme un petit fou. Voilà, après, ça dépendra aussi de pas mal de critères. Il y a une BD aussi qui va sortir en avril, tirée du tome 1. Et puis, j'espère toujours avoir un film ou une série, pourquoi pas. Donc évidemment, tout ça peut influer sur la sortie des autres tomes.
Vous habitez toujours dans la ville de Darnétal, c'est ça, près de Rouen?
Ouais.
C'est là où vous avez été confiné?
Oui, tout à fait. Banlieue, tranquille.
Et comment vous l'avez vécu? Je raconte ça parce que, vu vos romans, comment vous avez vécu ce confinement? Est-ce que ça vous a donné des envies de meurtre?
Non, mais en fait, c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, on est quand même ultra privilégié puisque on télétravaille par nature, on télétravaille avec nous-mêmes en fait, et donc rester devant son ordinateur à écrire, c'est notre quotidien. Donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'évidemment on est confiné en famille et que du coup on passe un peu plus de temps au repas ou aux activités quotidiennes. D'habitude, c'est plutôt 5 minutes en regardant ce qu'il y a dans le frigo. Ouais. Mais en dehors de ça, ça change finalement pas grand-chose avec le quotidien, si ce n'est cette grande différence qui est que tous les salons étaient annulés, les librairies fermées, et que du coup on se sent encore plus seul que d'habitude parce qu'on ne peut pas rencontrer les lecteurs.
Merci beaucoup Michel Bussy, merci de penser également aux lecteurs. Je rappelle, Gravé dans le sable, adaptation en BD de votre roman chez Phileas, et puis cette saga pour adolescents Néo, c'est le tome 1 chez Pocket Jeunesse. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, mais il va venir nous parler de quelqu'un qu'il a bien connu, notamment ici à Europe 1, Coluche. Il préface la 2e édition du Dico de Coluche. Et puis l'humoriste Tom Villa pour sa nouvelle émission diffusée sur la plateforme de France Télé. Ça s'appelle le Ring Comedy Club. Juste après le flash, Anne Romanoff avec Ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.